quartier, mais également des associations, par exemple, qui développent des savoirs, des savoir-faire sur des sujets et qui sont pas forcément entendus. Face à ça, il faut mettre en place des outils. Et rappelez-vous, à la fin de l'année 2018, il y avait aussi un cri d'alerte d'une partie de la population sur le fait qu'il n'y avait pas assez de prise en compte des avis citoyens. Et il y a eu un mouvement en France, les Gilets jaunes, qui s'est mobilisé d'ailleurs sur l'augmentation du prix de l'essence avant tout. Et on a l'impression que l'histoire se répète ces dernières semaines. Et donc les Gilets jaunes réclamaient un référendum d'initiative citoyenne. Et c'est possible de le mettre en œuvre à l'échelle municipale. Donc nous, dans notre programme, on a travaillé la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne municipale qui a déjà été mis en place par des maires insoumis sur le territoire national et qui a permis en fait à des personnes de pouvoir construire des projets. Donc parfois il faut de l'accompagnement hein, de la ville, il faut aussi des outils pour pas qu'on dise bonjour, on fait une réunion à un tel endroit, l'information ne circule pas suffisamment et on se satisfait de se dire on a invité les gens à venir donner leur avis, et ben c'est bon, le travail est fait. Et bien non, il y a du travail d'aller vers, de multiplier aussi les outils pour que les jeunes aussi se mobilisent, donc faire des consultations sur smartphone, pouvoir aussi utiliser les réseaux sociaux, etc. En plus du référendum d'initiative citoyenne, je suis content que les deux sujets soient très liés parce que je crois que pour à la fois lutter contre l'abstention et pour que les gens participent à la vie démocratique, il faut aussi les doter de contre-pouvoirs et qu'il n'y ait pas un pouvoir absolu qui soit donné comme ça au début du mandat municipal. Celui-là, je crois qu'il y a un peu des incertitudes, mais il pourrait durer 7 ans au lieu de 6, puisque la prochaine élection municipale tomberait à peu près en même temps que l'élection présidentielle de 2032. Et donc, si c'est un mandat de 7 ans, on ne peut pas laisser le pouvoir à une équipe pendant 7 ans sans jamais être consulté pendant le mandat. Et donc, moi, je suis pour qu'on mette en œuvre le droit de révoquer les élus, c'est-à-dire que s'il y a un seuil de pétition suffisant qui est atteint et qu'un référendum obtient qu'un élu doit partir, alors l'élu doit démissionner du conseil municipal. Ça permettra à celles et ceux qui racontent n'importe quoi et bah d'arrêter de le faire parce qu'ils seront sur un siège éjectable.
On est tous d'accord, ça s'entend dans le débat, pour dire qu'il y a un lien très clair entre la participation citoyenne et la participation électorale. On a commencé de parler de la participation électorale. Tout ça se décrète pas, c'est vrai, si quelqu'un avait une formule magique, parce que ces sujets-là, on les retrouve dans d'autres villes, hein, ça se saurait aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Moi, ce qui me frappe dans les interventions précédentes, c'est qu'on parle toujours des politiques publiques et comment on va associer les habitants aux politiques publiques. Comme si les projets, les actions ne devaient pas venir des habitants eux-mêmes. Donc, avant de dire ce qu'on va faire pour les gens, faisons d'abord confiance aux gens, aux habitants. Par exemple, concrètement, personne ne l'a dit, mais savez-vous combien d'euros de soutien aux associations, aux structures citoyennes finalement, comités de quartier et autres, on donne sur les quatre quartiers des Hauts-de-Rhône, c'est-à-dire Lombardie, Châtelet, Sapin et Grand-Mare. 1 700 000 euros par an, c'est de très loin, et j'en suis fier, le plus haut ratio par habitant de toute la ville. Pourquoi? Mais parce que les propositions, que ce soit les fêtes dans les quartiers, que ce soit évidemment les clubs de sport, de culture, les associations de solidarité. Moi, j'ai le souvenir que quand il y a eu l'incendie, sur une des tours de la Grand-Mare, c'est les jeunes du quartier qui étaient là pour aller prêter main forte et pour sauver probablement des vies. Donc, la première chose à dire, c'est que la mairie, elle doit pas être là pour imposer des politiques publiques, mais pour accompagner des initiatives citoyennes. Première chose.
Justement dit tout l'inverse.
Deuxième chose. J'essaie juste d'expliquer.
Non, mais
tous les chiffres que je viens de donner, vous ne les avez pas cités.
Vous avez dit
si vous voulez bien, Madame Caron, là encore, donc je vous ai écouté. Une fois de plus, vous voulez expliquer que vous êtes à l'écoute de tout le monde, mais dès que je parle, vous me coupez la parole.
Bon.
Donc, deuxième point, là aussi, vous ne l'avez pas dit, Madame Caron, les locaux. Eh oui, les locaux, parce que, oui, mais pourquoi vous ne le dites pas? Parenthèse, j'ai pas trouvé le mot Lombardie non plus dans votre programme. Les locaux, on en a besoin. Pour les associations, c'est difficile les locaux parce que ça coûte, parce qu'il y a des flux à payer, etc. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que on a, et notamment grâce à la métropole, la disponibilité de certains locaux. Je vous signale que c'est le cas ici pour Radio HDR. C'est le cas aussi sur le centre commercial de la Grand-Mare où on peut implanter, exemple Emmaüs, que l'on a implanté sur le centre de la Grand-Mare. Donc, deuxièmement, des locaux. Et puis, troisième point, qui est une nouveauté que je voudrais tester parce que je prends la critique qui a été faite tout à l'heure et c'est vrai qu'on peut améliorer les questions des conseils de quartier, sauf que ce qui n'a pas été dit, c'est que beaucoup de conseils de quartier ne marchaient plus trop parce que c'était malheureusement pas tellement représentatif de la vitalité de tout le quartier. Et donc, moi, ce que je propose, ce sont des contrats de quartier avec des conseils de quartier, avec un tirage au sort, une partie de sa composition, donc y compris des jeunes, y compris à partir de 16 ans, pour donner la parole à tout le monde sur des contrats de quartier. Par exemple, sur la Grand Mare, bon, bah, il y a le centre commercial, il y a la question de la propreté, il y a la question de la sécurité, il y a la question des pavillons, il y a la question des jardins partagés, il y a la question de l'habitat intergénérationnel. Et on définit un plan d'action ensemble sur le quartier et on le porte avec ce conseil de quartier renouvelé. Voilà trois propositions concrètes. Accompagner les associations, trouver des lieux et faire confiance via les contrats de quartier.
Pourquoi ce serait à la 7e année de mandat qu'on agirait sur ces questions? En fait, sur la question démocratique, c'est pour le coup, j'ai souvent avec mes deux concurrents des débats sur les questions financières où ils font des débats tous les deux sur comment tu payes, combien ça coûte, etc. Bon, en vrai, sur la question démocratique, il y a des outils qui peuvent être vraiment très peu coûteux sur ce que je disais tout à l'heure, le référendum d'initiative citoyenne ou le droit de révoquer les élus. Et après, sur le fait de doter les gens d'un conseil de quartier avec un budget participatif, en fait, c'est des décisions qui peuvent être prises très rapidement au premier, au deuxième conseil municipal. On peut mettre un élu qui serait rattaché peut-être pour mettre en place la structure dans le quartier, après en essayant d'avoir une certaine autonomie. Moi, je suis très favorable à la proposition de Nicolas Meyer-Rossignol sur le fait qu'il y a un quota de tirage au sort dedans, qui est ouvert à la fois aux jeunes à partir de 16 ans, mais aussi aux personnes étrangères, parce que moi, quand j'achète ma baguette de pain, je paye une TVA sur la baguette que payent aussi les étrangers de cette ville, et pourtant, ils ne prennent pas part à la décision publique de la même manière que moi, ce qui est vraiment une rupture d'égalité et démocratique. Et en fait, je partage plutôt ce qui vient d'être dit, mais j'ai l'impression là que Nicolas Meyer-Rossignol voudrait proposer un bilan alternatif à Nicolas Meyer-Rossignol. Donc ça m'étonne un peu. Donc je pense que la vraie alternative, elle est plutôt de mon côté sur le plan démocratique. Je précise quand même, juste Marine, je m'excuse, ouais, mais qu'il y a aussi une histoire longue derrière les sujets démocratiques et que peut-être mes concurrents me reprocheront encore de parler de l'échelle nationale. Mais je pense que les valeurs démocratiques dans les programmes politiques, ils sont importants et que la France insoumise, depuis sa création, est partisane de la 6e République parce qu'on a aussi des systèmes, y compris à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, qui vont privilégier des baronnies, qui vont privilégier des systèmes clientélistes. Et il faut qu'on lutte contre cela. Et c'est aussi ça, le virage démocratique qu'on souhaite donner à Rouen.
Pour réagir sur les propositions que je viens d'entendre, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les a pas fait en 6 ans, en fait? Pourquoi est-ce qu'on attend un moment électoral pour à nouveau faire des annonces alors qu'il y avait 6 ans pour le faire, alors que ça fait 18 ans que c'est la même équipe qui est en responsabilité. Il y a eu dans les quartiers beaucoup de promesses, beaucoup, beaucoup de promesses. Les gens, ils les ont entendues et ils n'ont jamais rien vu venir. Et à un moment donné, on peut continuer à faire des promesses, mais pour ça, il faut les faire au quotidien, il faut les faire à leur contact directement. Et même, il ne faut pas que ce soit des promesses, en fait, il faut que ce soit des engagements qui soient clairs. Et ça, c'est important parce que ça revient avec tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait. Ça revient au fait que les gens, ils n'y croient plus et les gens, ils abandonnent. Et quand ils abandonnent, c'est la démocratie qui perd. Et donc, moi, j'entends les promesses et les propositions. On en a fait, hein, nous aussi. On est allés échanger. Karine était là, Marion aussi, Denise, avec Mourad, avec plein de gens. On est allés échanger sur les quartiers. On a vu des jeunes qui nous ont dit il y a 20 ans, il y avait des trucs. Aujourd'hui, il n'y a plus, en fait. Qui nous ont dit il y avait la MJC, il y avait un endroit où, quand on sortait du collège, on pouvait se retrouver. Il y avait des actions qui étaient faites par les gens qui, les éducateurs du quartier, en fait, qui nous accompagnaient à faire des petites missions. Puis après, il y avait un voyage à la fin d'année qui était un peu l'action finale. Et donc, ces jeunes qui se retrouvaient un peu dépourvus et perdus, ben aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc, en fait, ils me disent, et moi, ils m'ont dit, hein, très clairement, on est inquiet pour le petit frère, on est inquiet pour la petite sœur. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut aussi remettre au cœur du débat. C'est notre jeunesse, hein, parce que c'est elle qui demain, c'est eux qui sont demain les citoyens de notre ville. Et clairement, ils ont besoin d'autre chose que juste du Yaka Faucon, alors qu'il ne s'est rien passé pendant 6 ans et qu'il ne s'est rien passé pendant 18 ans de manière très concrète. Il y a les grandes infrastructures, hein, mais ce n'est pas que ça le quotidien des quartiers. C'est bien plus que ça. C'est du lien social, c'est du lien humain et c'est de la sincérité au quotidien.
Quand même un consensus pour essayer d'avancer sur les propositions que j'ai faites. Quand vous dites que rien n'a été fait pendant 18 ans, franchement, Madame Caron, il y a une différence entre critiquer et dénigrer. Peut-être que vous n'avez pas complètement écouté ce que j'ai dit. Les 1,7 million, c'est déjà le cas.
Bien sûr.
C'était pas le cas à l'époque de votre ami Monsieur Albertini.
Et
c'était pas le cas à l'époque de votre ami Monsieur Albertini. Tout comme d'ailleurs vos soutiens au département. Je finis juste ma phrase. Vos soutiens au département de Seine-Maritime. Et figurez-vous que les jeunes et les associations, notamment sportives des Hauts-de-Rouen, le savent très bien. Vos amis au département de Seine-Maritime ont baissé. et ont cassé les subventions et les soutiens à un grand nombre d'associations. Et ça, ça m'inquiète.
On va se faire une petite pause musicale. Et pour le titre, alors forcément, ce n'est pas vous maintenant qui avez choisi le titre. Désolé, on ne vous a pas laissé le choix, mais vous allez peut-être aimer en pause musicale.
Si quelqu'un connaît Edith Piaf,
Exactement, on va se mettre Edith Piaf avec le titre Milord. Voilà, ça va nous emmener un peu à Paris, le temps de cette pause musicale. À tout de suite.
Hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-nous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Et me voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
De retour sur votre émission La Voix des Municipales à l'occasion des élections municipales et de l'entre-deux-tours. On est de retour pour aborder la nouvelle thématique qui va être dédiée à la vie associative. Et c'est tout de suite. HTR. Et oui, on parle vie associative, association qui joue un rôle important dans la vie locale. Je pense que vous avez eu l'occasion un peu tous les trois d'en parler et de le mentionner aussi bien dans vos parcours que dans vos idées. La première question pour un peu lancer le débat, c'est quelle place vous souhaitez vous donner dans votre projet municipal, c'est-à-dire au-delà des subventions, comment une mairie en fait en quelque sorte peut concrètement soutenir, accompagner les associations. Voilà, vous avez 3 minutes chacun et chacune pour voilà nous faire savoir vos propositions en matière d'accompagnement. Je vous propose qu'on rechange encore l'ordre et qu'on commence par Maxime da Silva, puis Nicolas Meyer-Rossignol et finir sur Marine Caron. Maxime da Silva.
Oui, donc en direction des associations, je dirais qu'il y a 3 gros piliers. Un premier pilier, ça rejoint les débats de tout à l'heure sur les aspects démocratiques, c'est-à-dire que je pense qu'il faut associer les associations aux prises de décision, raison pour laquelle, pour l'attribution des subventions, je souhaite mettre en place une commission paritaire consultative qui existe dans d'autres villes, y compris à grande échelle. Ça va permettre à la fois aux associations de pouvoir être consultées sur la répartition des crédits d'argent public en direction des associations, mais aussi pour pouvoir lutter contre toutes dérives clientélistes. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut aider les associations dans leur exercice du quotidien. Aujourd'hui, à Rouen, la mise à disposition des salles municipales d'association n'est pas systématiquement gratuite, et je pense qu'on peut faire des efforts financiers en la matière pour que des associations, notamment en centre-ville, parfois c'est quelques euros, hein, je dis pas que les sommes sont astronomiques, mais ça demande aussi aux associations de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir se réunir. Or, ça paraît quand même le béaba de pouvoir se réunir. Et enfin, je pense qu'il faut aussi que les associations, elles puissent partager des lieux, s'auto-organiser. Donc nous souhaiterions que l'actuelle maison des associations puisse se maintenir, et nous voulons créer de nouveaux lieux dédiés pour les associations, à la fois un lieu dédié pour les associations sur la rive gauche et un lieu dédié pour les associations sur les hauts de Rouen, où il y aurait un peu des maisons des associations dans ces deux zones de Rouen pour qu'elles puissent se retrouver, partager une photocopieuse et puis parfois pouvoir aussi échanger entre eux. C'est important ce qui se passe à la maison des associations, où y compris le planning de réservation des salles, etc., et géré par les associations et pour les associations, fonctionne très bien, et donc il faut choyer cela, c'est ce que nous faisons.
Oui, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit, que je partage largement, bien sûr le soutien financier. Je le disais tout à l'heure, il y a des choix politiques différents dans d'autres collectivités, hein. J'ai cité le département de Seine-Maritime, j'aurais pu en citer d'autres qui font des choix très différents de baisse drastique parfois, hein, de soutien notamment à des emplois, et derrière ça a des conséquences très pénalisantes pour les associations. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin quand même, parce que certes il y a le financement, mais il y a la pérennisation du financement, et en particulier la multi-annualité. Parce que quand vous avez un dossier de demande de financement pour la mairie, la métropole, le département, la région, parfois l'Europe et l'État, etc., chaque année, avec un compte rendu, parce qu'il faut rendre des comptes et c'est normal, c'est de l'argent public, etc., mais c'est hyper lourd. Donc, des conventions pluriannuelles qu'on a déjà fait, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin là-dessus pour systématiser les conventions pluriannuelles. Premier élément, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi une visibilité pour plusieurs années. Parce que quand vous avez une visibilité sur plusieurs années, bah à ce moment-là, vous pouvez plus facilement, par exemple, recruter ou projeter sur un investissement. Deuxième chose, ça n'a pas été dit, je pense que c'est très important, c'est le mécénat de compétences. Parce que quand vous gérez une association, vous avez l'URSSAF, vous avez des contrats de travail, vous avez le droit du travail, vous avez des règles de sécurité, vous avez à gérer parfois des enfants, des jeunes, avec là aussi des règles et le droit. Et c'est très difficile, et vous pouvez être responsable pénalement. Or, souvent, ce sont des bénévoles. Donc et puis tout le monde n'est pas ultra compétent dans tous ces domaines que je viens de citer, et c'est complètement normal. Et là, la mairie ou la métropole peuvent avoir un rôle important, ce qu'on fait déjà là aussi, mais je crois qu'il faut encore amplifier, en impliquant des salariés, par exemple du privé ou du public ou d'autres structures, qui ont ces connaissances et qui sont volontaires, parce qu'il y en a, pour donner du sens aussi à leur engagement citoyen, pour tout simplement partager leurs connaissances, par exemple sur le droit du travail, sur la comptabilité, sur les risques juridiques, etc., etc. Donc, deuxième point. Troisième point, effectivement, les grands rendez-vous associatifs pour valoriser les associations. Parce que le problème des associations, souvent, c'est de trouver des bénévoles. Et pas seulement une fois, ponctuellement, mais dans la durée. Et pour faire ça, bah, c'est pas facile, parce qu'on ne peut évidemment pas forcer les gens, par définition, si c'est du bénévolat. Mais par contre, souvent, l'un des tout simplement des problèmes, c'est que les associations ne sont pas connues. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir le Lab O, qui est une association de jeunes femmes qui fait du soutien scolaire pour des gamins au collège ou au lycée. Je les cite, voilà, ce n'est pas pour particulariser, mais c'est juste pour donner un exemple. Bah, est-ce qu'elles sont connues suffisamment ? Non. Donc là aussi, la mairie, la métropole et peut-être aussi des entreprises et d'autres structures peuvent aider à travers bah, bien sûr les médias, les réseaux de communication de la mairie, à travers les rendez-vous associatifs pour valoriser tout cela. Et je crois que c'est très important. Et puis je termine en disant qu'on a un service municipal sur les associations qui est très compétent, très riche et qu'il faut là aussi continuer de développer.
Marine Caron. Mais écoutez, plusieurs propositions sur la question de la vie associative. D'abord, je le dis et je l'ai redit, mais c'est important. Ce qu'il faut réussir à tisser, c'est une relation de confiance et de proximité. Il faut un référent municipal, un élu qui soit pas uniquement là pour valider les subventions et organiser le forum des assos, mais qui soit bien là au contact direct au quotidien avec les acteurs associatifs. Il faut pour nous une interface qui soit dédiée pour partage entre les associations qui sont souvent parfois isolées chacune de leur côté mais ont besoin de partager des compétences, de partager des formations, de partager des conseils en fait tout simplement, de l'expérience. Simplifier bien entendu, c'est évident, toutes les démarches administratives, toutes les demandes de subventions, c'est des papiers, c'est du temps, c'est de l'énergie et beaucoup trop d'associations nous ont dit qu'elles s'y perdaient. Il faut pouvoir mieux accueillir nos acteurs associatifs sur le territoire. C'est un plan de rénovation des maisons de quartier. Il y en a certains qui sont dans un état de rénovation assez inquiétant. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prioriser. C'est la création d'un réseau local entre les associations et entre les quartiers pour pas se retrouver isolés. C'est bien entendu la question du bénévolat. Je rejoins parce qu'on l'a proposé, on en a parlé lors de la journée mondiale du bénévolat qui était début décembre. Le fait d'avoir une soirée de mise en valeur du bénévolat, le fait de pouvoir accompagner un passeport de l'engagement bénévole chez les jeunes aussi pour valoriser leur temps qu'ils consacrent dans la vie associative. Et puis, c'est aussi soutenir les actions d'un point de vue logistique. Quand une association veut mettre en place une fête dans un quartier, quand et c'est le cas aussi pour les associations de commerçants même, quand ils veulent faire vivre leur quartier, c'est être au rendez-vous de l'accompagnement parce que les initiatives elles partent aussi du terrain. Et ça, c'est important que la ville elle soit aux côtés et pas seulement à regarder.
Donc la question que je pourrais poser pour lancer le débat, c'est comment justement éviter les maras administratifs que de nombre associations connaissent.
On peut commencer par
Je veux bien. La première des choses, c'est que souvent les associations elles font des demandes qui sont pluricollectivités et pluri-instances. Et donc il y a besoin de pouvoir simplifier ces démarches-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque collectivité a son module de demande de subvention. Il faut aujourd'hui travailler main dans la main et pas attaquer en permanence le département, Monsieur Maillet-Rossignol, mais avec le département, avec la région. Le faire de manière mutualisée avec la métropole qui bien entendu est directement dans la main avec la ville de Rouen. Et donc ça c'est déjà une première étape. Si on a demain un dispositif unique de dépose de demande de subvention, ça simplifiera grandement les choses et ça c'est un impératif.
Bon écoutez, je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on a tous les remontées d'associations qui nous disent que c'est insupportable de devoir faire les dossiers de subvention, que ça prend énormément de temps, que c'est très chronophage. Donc évidemment qu'il y a des processus de facilitation pour ce qui est des demandes de subvention ville-métropole, qu'il peut y avoir des appuis qui soient faits par les services, qu'il peut y avoir des accompagnements qui soient mis en place dans les conseils de quartier que je prévois dans l'ensemble des quartiers de Rouen et auxquels pourront trouver des réponses à leurs questions ou des soutiens l'ensemble des associations du quartier. Donc je pense là-dessus que c'est une demande des assos. Je pense que pour ce qui est des demandes de subvention municipale et métropolitaine, on va pouvoir agir. Après, on reste dans un pays France qui est parfois une lourdeur administrative un peu écrasante. Et donc là-dessus, il vaut mieux plutôt prévoir des accompagnements des associations parce qu'on ne va pas forcément pouvoir, d'un claquement de doigts, faire en sorte de réduire la grosseur
des
procédures.
Mais les deux démarches ne sont pas incompatibles.
Oui, c'est ça. Donc agir sur les deux piliers vis-à-vis des assos. Mais je crois que ça avait déjà été répondu au premier tour de table.
Je redis rapidement que la question pour réduire le fardeau administratif, certes, c'est de simplifier les formulaires, les démarches, mais c'est aussi de donner une visibilité sur plusieurs années. Parce que si vous voulez, par exemple, on va prendre un exemple très concret et très important, ce sont les recrutements. les contrats de travail. Si vous voulez pouvoir recruter, si vous n'avez pas de visibilité sur plusieurs années, c'est quasi impossible. Ou alors, ça va être de la précarité, ultra précarité. Donc, je me permets d'insister parce que j'ai cette expérience-là. Et heureusement qu'on l'a développée, mais pardon, Madame Caron, tout le monde ne le fait pas dans toutes les collectivités. Et je ne suis pas là pour attaquer, je suis là pour constater.
Et je peux vous citer beaucoup. Vous devriez être là pour aussi tendre la main et travailler.
Et c'est ce que nous faisons. Et j'aurais aimé, quand nous avons tendu la main, comme vous dites, au département de Seine-Maritime, il y a d'autres collectivités aussi, et au gouvernement que vous soutenez. Quand nous avons dit que, par exemple, les réductions des financements sur le sport, sur le pass sport, qui permet à des gamins d'aller dans des clubs de sport et de payer leur licence beaucoup moins cher, quand ces réductions ont été annoncées, nous avons dit « attention ». Et le département, nous avons dit « attention ». Et derrière, il y a eu des conséquences.
Et je partage, et donc, M. Maillard-Snell.
Je ne dis pas que tout est mal fait. J'essaye d'être nuancé. Bien sûr qu'il y a plein de choses positives qui sont faites par les autres collectivités, et heureusement, bien entendu. Mais je veux juste dire qu'il faut faire très attention à donner de la visibilité et, si possible, à sanctuariser, quand c'est possible, ce soutien associatif.
Moi, je voudrais dire aussi que une des manières d'aider les associations, c'est de faire en sorte qu'elles, qu'elles puissent inventer, développer des nouveaux projets et ne pas être juste des supplétifs des services publics qui disparaissent. Et en fait, souvent, c'est le cas dans plein de situations. Raison pour laquelle, par exemple, en direction des familles monoparentales, je souhaite mettre en place une carte qui va ouvrir à la fois une priorisation d'accès dans le service public, des tarifs préférentiels pour les services publics, mais aussi, par exemple, de l'aide aux devoirs. Sur ma liste, il y a Samia Ben Ramdan, qui est habitante de la Grand-Mare et qui a dû créer une association d'aide aux devoirs pour que les parents s'auto-organisent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de service public qui permette à des personnes qui n'ont pas les moyens de faire appel à Acadomia, de faire en sorte qu'un gamin qui a peut-être des crushs sur une matière ou peut-être a une année difficile, eh ben, qu'il puisse le faire. Et honnêtement, avec la manière dont les macronistes maltraitent le service public de l'éducation nationale, pour les gamins qui ont besoin d'un PAP par exemple. Et on a plein de remontées de terrain où les enfants ont besoin d'un accompagnement spécifique parce qu'ils ont des difficultés à partir du CM1, du CM2, de la 6e. Et parfois, le PAP, il intervient en 4e. Le PAP, j'explique en 2 secondes, c'est au lieu que l'enfant note l'ensemble du cours qui est au tableau comme les autres, on lui imprime le polycopié et ça lui permet de gagner du temps et s'il a un petit peu de difficulté de pouvoir...
Des enfants en situation de handicap.
Voilà, c'est pas que du handicap, c'est aussi des personnes qui sont simplement en difficulté et qui n'ont pas forcément une reconnaissance d'handicap. Mais aujourd'hui, c'est des associations qui ont ça sur leurs épaules et qui voient les portes des assos qui sont poussées avec des parents qui sont démunis et qui leur disent « je ne sais pas comment agir avec nos enfants ».
De terrain, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un garage solidaire ici sur les Hauts-de-Rouen, des recycleries qui sont encadrées, des partenariats vétérinaires parce que c'est des sujets du quotidien. Et donc il y a plus que la vie associative, il y a aussi les projets qui peuvent émerger sur le territoire de manière solidaire et qui ont beaucoup de sens quand les habitants en sont les premiers à en parler et à les évoquer sur le terrain.
On va conclure cette émission. Alors vous connaissez l'exercice, je pense que vous l'avez déjà exercé, mais que chacun et chacune en une minute puisse dire sa conclusion. On va commencer par Marine Caron, on va commencer comme par le début.
Bah écoutez, moi je voudrais inviter les habitants de Rouen, des différents quartiers, à faire un choix de cœur, un choix sincère. Ça fait des années qu'on entend plein de promesses qui mettent du temps à arriver, qui parfois sont pour certains effectifs, pour d'autres pas vraiment. Et je pense qu'il est important de recentrer aujourd'hui ces élections municipales sur le cœur du sujet qui est le local, qui est notre vie de quartier. Moi, je suis attachée, je suis heureuse d'avoir dans l'équipe des gens qui habitent ici sur les Hauts-de-Rouen, mais aussi qui sont engagés véritablement au quotidien à Gramont, comme dans les autres quartiers, parce que c'est des gens qui demain seront disponibles, ils seront à l'écoute, ils seront sur le terrain, ils seront là pour porter aux côtés des habitants des projets, ils seront là pour changer la mentalité et pour faire en sorte que ce soit le quotidien qui soit vraiment une priorité. Donc j'invite les Rouennaises et les Rouennais qui nous écoutent, les habitants des quartiers qui nous écoutent, à faire le choix d'un changement qui n'est pas un changement de rupture ni de peur, mais un changement de confiance, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui.
Maxime Da Silva, une minute pour conclure.
Eh bien, je dis aux auditeurs et aux auditrices de Radio HDR que s'ils n'ont pas voté dimanche, eh bien, ils doivent voter dimanche prochain. Je leur dis que si dimanche dernier, ils ont voté France Insoumise, il faut qu'ils se remobilisent dimanche prochain. Je leur dis que si la liste pour laquelle ils ont voté dimanche dernier est disqualifiée au second tour, alors ils doivent voter France Insoumise, qui est le seul bulletin de vote dimanche qui est à la fois anti-Macron et anti-raciste. Et je dis à celles et ceux qui, peut-être, ont fait un choix de raison, au premier tour, un vote utile, et bah qu'ils peuvent faire un choix de conviction au second tour avec le bulletin France Insoumise. On a besoin que les électeurs et les électrices nous donnent un maximum de force au conseil municipal, qu'il y ait un maximum d'élus France Insoumise au conseil municipal, des élus combatifs qui sauront défendre leurs droits. On compte sur vous.
Et pour terminer, Nicolas Mayeux-Rossignol, une minute pour conclure.
D'abord, je veux dire que cette élection dimanche 22 mars, elle est extrêmement importante. Regardez sur la gratuité des transports ce qu'on a fait pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller encore plus loin. Pour les moins de 25 ans, pour les personnes de plus de 65 ans, ce sera une vraie révolution. Et on peut le décider ce dimanche. Ne laissez personne décider à votre place. Parce que ce sont des actions concrètes qui peuvent changer la vie dès demain. Mais pour cela, eh ben, il faut gagner ce dimanche.